Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et ce soir, notre chocolat, c'est Captain America, et on en parle tout de suite.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pull vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, My Generation.
On est mal barré.
Soyons enculés, tu es immonde. Cause it's bad boy for life, for life.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la boîte de chocolat. Alors ce soir on va parler de Captain America. C'est un film de super-héros de 2011 réalisé par Joe Johnston d'une durée de 2h04 avec Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones et Hugo Weaving. Alors c'est un film qui a reçu une note presse de 3,3.
Ah, propre quand même.
Ouais, et une note spectateur de 3,5. Oh, et quand raccord. On déballe le chocolat, eh bien ça nous donne ça.
Roger, Steven.
C'est moi.
Tenez-moi une
chance. Je suis désolé. Je vous sauve la vie.
Ah ouais.
On fait la guerre avec des armes, mais c'est d'abord avec des hommes qu'on la gagne.
Tu sais pas qu'il y a un moment où il faut baisser les bras?
Je ferai ça toute la journée.
Toute armée commence avec un homme.
Je peux vous donner une chose?
Bien sûr.
Premier super soldat.
Parce que je suis méchant.
Pourquoi? Parce qu'un homme faible connaît la valeur de la force.
C'est trop tard pour aller aux toilettes?
Force de Jedi. Je sais quoi, c'est ton tour.
Maintenant, monsieur Stark.
Ouais, beaucoup d'explosions.
J'ai l'impression que c'est un film Marvel. Disons.
Oui, c'est dingue, hein, c'est dingue. Et juste avant de parler de ce brillant film, c'est l'heure de l'instant promo.
Ah, d'accord.
Hey. Salut toi.
Salut.
Je crois que c'est l'heure de l'instant promo.
L'heure d'heure.
Tout ça pour te dire qu'on a une boîte mail, un gros paquet. La boîte de chocolat mail à gmail.com. Et deux Insta. La tirée du 6, boîte de chocolat.
Tu es à 100 ma grosse boîte.
En fait, Thomas s'est planté sur le premier, donc on a dû en créer une deuxième, c'est un peu con, on va le voir. La boîte, le chiffre 2, chocolat. Alors, écris-nous et à tout de suite.
Tout de suite. Coquin. Moi, je la sens bien, cette grosse boîte. Hein.
Et en plus, il y a une erreur dans ce jingle.
Ouais.
C'est laquelle, Charlie?
Ouais, parce que c'est underscore sur un des Insta.
Oui, c'est pas tiré du 6.
En fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on fait plus de promos chaque semaine. Il y aura plus de personnes, mais dans toutes les différents Insta, il y aura jamais.
Bah, on fait une battle entre la tiré boîte de chocolat et la boîte chiffre 2 chocolat.
On s'est dit qu'à chaque saison, on allait rajouter un Insta.
Alors, ma compagne ce soir, Charlie. Bonsoir, Charlie.
Eh bien, bonsoir, Thomas. Bonsoir, tout le monde.
Bonsoir, Thomas.
Eh bien, bonsoir à tout le monde.
Et bonsoir à moi-même. Et donc, nous continuons notre saga Marvel, et en effet là on va parler de Captain America. Alors qui me fait le résumé de ce brillant
putain,
film?
Bien sûr, qui? Ce serait mieux si c'était Charlie.
Patrick Beau,
allez. J'y vais. Donc Captain America, c'est l'histoire de Steve Rogers, qui est donc un mec plein de bonne volonté, mais comment dire, il veut s'engager dans l'armée,
un peu sadomaso aussi,
mais le mental est professionnel par ouais. contre il a le corps d'un Benjamin. Donc niveau voilà dans, ouais. Et donc il a un peu de difficulté. Il va grâce à un procédé révolutionnaire pouvoir devenir soldat,
le piston,
et affronter l'agent Schmidt
et le mec des cuisines.
Ouais. Et donc renverser le cours de la guerre.
Le film s'ouvre sur un soir de pleine tempête de neige où l'on découvre une équipe de Washington venue extraire un énorme vaisseau qui a été découvert. Les trucs est tellement fat que finalement ils se disent bon, on va d'abord rentrer dedans et on verra ce qu'on en sortira.
Ouais, parce qu'ils avaient l'air de partir en mode bah écoute, on va prendre une grue et le sortir.
Ouais.
Mais il s'avère que soit c'est un boomerang de 60 mètres de long, soit c'est un truc vraiment conséquent.
Du coup, ils rentrent dedans et Vlatipa qui découvre un mystérieux bouclier.
Oh oui.
Ouais.
Un bouclier avec une étoile.
Un bouclier qu'on va pas tarder à
voir. Et là, il y a un mec qui fait putain, mais en tant qu'antiquité, mais ça doit rapporter un max de blé, ça. Et donc, du coup, bah, il appelle.
Antiquité, mes couilles, c'est un frisbee.
Bah, il appelle un colonel pour l'identifier direct, en fait. Quand, en gros,
et le colonel, il se pointe, genre, ah, ça, c'est de l'inox.
Ça, c'est du faux. Attendez, je teste.
Mais ça veut dire que le mec sait exactement ce que c'est. Alors.
Exactement. Ouais. Ouais.
D'accord.
Et basé, si tu comprends bien, sur des comics et de la propagande de Seconde Guerre mondiale, quand même. Donc,
Et là. Direction Norvège en 1943, à l'époque où lorsque tu avais ton costard Hugo Boss, eh ben tu pétais la classe.
C'était swag. Tu m'as coupé
mais
ma
ça voulait surtout
pied,
dire que tu faisais partie de la mauvaise équipe.
Oui, ben on retrouve Tonsberg. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais le village là,
ouais.
C'est le village qui se fait défoncer par les géants de glace dans Thor.
Sérieux ?
Oui, c'est le même village.
Bah, donc,
je pense qu'il faut surveiller le village là parce que quand ils prennent cher, c'est qu'il va se passer un truc assez, assez violent. Quand même. Okay. C'est soit des hommes des glaces, soit des nazis.
Alors qu'est-ce qu'on y découvre ?
Et bah du coup, on a Ruzard de Harry Potter qui a décidé de garder la salle en fait. Oui, parce que c'est l'acteur qui joue Ruzard de Harry Potter. Okay. Et il décide de garder un artefact. Et à ce moment-là arrive Mr. Smith ou Elrond du Seigneur des Anneaux, Herr Schmidt. Qui arrive et qui décide de démontrer à ses hommes que c'est des fragiles parce qu'ils essayent d'ouvrir un tombeau et lui il y arrive tout seul comme un bonhomme.
Oui, c'est vrai que il montre là quand même qu'il est assez costaud physiquement.
Il montre qu'il a du charisme, mais il a aussi du charisme, il est aussi malin parce que du coup dans le tombeau il y a un espèce de magnifique cube en cristal et lui on lui fait pas, donc il l'a fait tomber parce qu'il sait que c'est de la merde. Et après il regarde Ruzard et fait ah tu croyais me piéger et je vois donc une illustration d'Yggdrasil et je vois un serpent, je vois un œil, bon je sais pas pourquoi j'appuie dessus et ben voilà j'ai la solution et puis je trouve le Tesseract.
Non, attends, c'est plus subtil, c'est à dire que Ruzard lui dit mec tu trouveras jamais ce que t'es venu chercher. L'autre, il lui met un petit coup de pression à base de je vais tuer tous tes potes. Il fait ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça alors.
Bah, du coup, je vais dire où c'est. Deuxième porte à droite.
Il lui dit pas directement, il lui met un petit coup de tête en genre tu chauffes, nickel, bouillant, tu l'as, tranquille.
Et là, on apprend que ce fameux Agen Schmidt. Alors, pareil, les doubleurs français s'en fait plaisir.
Ah, bah, bien sûr.
Les Allemands. Bonjour, monsieur. Alors, j'ai cherché un cube.
J'ai l'impression qu'avec Iron Man de la dernière fois, ouais. les doubleurs cherchent à faire les films Marvel pour pouvoir bosser leur accent.
C'est clair.
Mais autant l'accent russe, il passait nickel. Là, l'accent allemand, il fait un peu vraiment caricature. Ah,
après, c'est
ça dépend. Le doubleur de Stanley Tucci, le maîtrise bien.
Là, on apprend que l'agent Schmidt fait partie d'un groupe qu'on appelle Hydra.
Oui. On ne sait pas encore.
On sait que c'est Hydra, mais on ne sait pas ce que c'est.
On ne sait pas le prénom encore. On sait juste qu'en fait, c'est des nazis et qu'ils ont un symbole supplémentaire comparé aux autres nazis qui avaient déjà plein de symboles hyper stylés. Quand même.
J'ai un aigle, j'ai une croix, toi t'as quoi j'ai un truc, j'ai une pieuvre.
Ouais, juste une tête de mort, déjà, quand t'étais Gestapo SS, c'était déjà pas mal. Mais eux, ils ont un crâne plus des queues de serpent. Du coup, lui, c'est peut-être une upgrade.
Des tentacules de pieuvre.
Scène suivante, direction les États-Unis, où on va découvrir un personnage. Et pas des moindres, Steve Rogers, le chétif.
Le boy scout, ouais.
Le chétif qui va se faire recaler malgré sa détermination à vouloir aller combattre. Alors, s'il y a bien un truc que je peux pas reprocher au film, il y a des effets spéciaux qui passent très bien. Et Chris Evans dans son corps de chétif, mais c'est un truc qui aujourd'hui, il date de quand le film ?
2011.
2011, on est en 2024. Franchement, passe tout seul.
Je sais pas comment ils l'ont fait, ça, mais en fait, tu crois en fait que c'est deux personnages différents. Mais
visiblement, ils l'ont tourné trois fois différentes.
Ah ouais,
C'est-à-dire une fois avec lui normal, une fois avec lui, mais avec tu vois, l'acteur en face plus haut ou plus bas pour qu'il regarde sur le truc, et une fois avec sa doublure physique. Et après, il colle la tête, ça doit être un vrai bordel.
Et un montage de l'enfer.
Et ben, ils sont bien cassés le cul parce qu'en vrai, ça passe, en 2024, ça passe très très bien.
Mais ça fait partie
tu vois pas du tout le truc.
Un peu comme comment, Social Network aussi, où t'avais, tu sais, Armie Hammer qui interprétait deux rôles.
Ah oui.
Et à chaque fois, il a interprété deux fois les mêmes trucs avec une doublure. Ils ont collé sa tête sur.
Ouais, mais ça, c'est pas encore ouf parce que tu l'as déjà
ça,
vu.
Ça, c'est
en
une duplication, ça à la limite. Et c'est
mec,
à la même
excusez-moi, c'est pas pour faire beauf. Full contact devant dame, ça passe encore tout seul. Hein.
T'as toujours les bonnes refs quand même.
Ah, je vous en supplie.
Quelle bible du cinéma.
Du coup, il est dégoûté, il décide d'aller au cinéma. Qu'est-ce qui se passe, Thomas ?
Et ben là, lui, il veut suivre gentiment les infos qui le bolossent, hein, clairement, qui sont en train d'annoncer qu'autour de lui, tout le monde fait l'effort de guerre, tout le monde est en train d'y aller.
Même les enfants.
Même les enfants.
Si vous êtes un vrai bonhomme, vous allez faire la guerre. Ceux qui font pas la guerre, c'est vraiment des chétifs.
Ça, j'ai trouvé que c'était hyper gratos, c'était vraiment en mode vous. À part, en gros, clairement, toi, la merde qui te fait pas, t'es vraiment une merde. Et à côté de ça, du coup, t'as un gros beauf qui, lui, vient juste pour regarder des dessins animés, mais lui, tu vois, il est dans le respect, etc. En fait, le personnage de Steve Rogers, quand même, c'est quand même, il est un peu sadomaso. Du coup, il a envie de continuer à avoir les infos qui lui disent que c'est une merde, et il supporte pas en fait les mecs qui veulent juste voir des cartoons.
Oui,
et du coup, il se bat. En fait.
C'est juste qu'il fait le show au cinéma. Le mec se retourne, lui fait chute, et puis du coup, il se fait.
Fait des rêves.
Et du coup, ça va se terminer dans la rue. Alors, il va y avoir pas mal de clins d'œil, hein, quand même.
Dans la rue, il décide du coup de se battre. Il se rencontre très rapidement, bah, en se prenant de droite, qu'il est quand même très fragile. Captain America fait 1m24 à mon avis.
Une balayette, tu lui fusilles tout le corps. Il y a moyen que tu le coupes en deux avec une balayette.
Bon, en fait, il n'y a même pas que ça. C'est que le mec se lève et se dit oh, je vais me battre avec un mec qui fait 1m30. Est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt, en fait, d'une certaine manière?
Ça n'a pas l'air de le déranger non plus. Hein.
Bah, la façon, grosse brute, tu parles.
Ouais. Captain, Steve Rogers se fait défoncer. Là, il a l'intelligence de se protéger, du coup. Avec
un couvercle de poubelle.
Ultra viril, référence du coup à ce qui va être plus tard.
Bien sûr.
Et il se fait quand même balayer. Et c'est à ce moment-là qu'arrive son grand pote Bucky.
Ah non, attends, tu vas trop vite. Il va balancer sa phrase gimmick.
Bucky, vas-y, ouais, je peux tenir toute la journée. C'est quand même une phrase très sadomaso, ça, quand même, je trouve quand même.
Oula, mais dans quoi tu vas là, toi?
C'est très sadomaso, quand même, sachant qu'il se fait défoncer
tu
la gueule.
Tu vas dans quel genre de soirée, toi, Thomas, en fait?
Bah, des soirées où j'ai pas envie d'aller, en fait. Très clairement.
Où tu encaisses toute la journée. Donc, oui, alors après, il se fait bolosser et qui vient me sauver?
Le soldat de l'hiver.
Alors, non, c'est alors, pas encore.
Bon, le soldat de l'automne. Alors. Bah, c'est son pote Bucky. Sébastien Stan, c'est ça?
Ouais.
Qui, lui, par contre, a une taille et une morphologie plus imposante.
Il est taillé à la guerre, lui.
Et du charisme aussi, apparemment. Parce que ça fait un peu quand même montré comme ça, d'une certaine manière, parce qu'il porte une casquette.
Et donc, il file une petite rouste au malotru et il vient sauver son pote Steve, qui est en train de se faire tabasser dans les poubelles. Là, tu te rends compte qu'ils se connaissent et qu'il y en a un qui a la chance de pouvoir. Aller sur le front, enfin combattre, parce qu'on est en 1943, donc c'est
je vois pas à quel moment c'est une chance, hein, quand même d'y aller, quoi.
Bah, c'est juste qu'à cette époque, en fait, t'es entouré de mecs et t'as tous tes potes qui y vont. Si t'es le seul à pas y aller, c'est vrai que tu passes un peu pour un froussard ou pour un lâche, quoi, en fait. Quand, en gros.
Et Bucky il le prend un peu sous son aile, c'est un peu son petit frère, tu vois, le petit frère qui est tout voilà, il est tout gringalé. Tu dis écoute, arrête de faire le show, moi je vais te sauver. Et tu sens que Steve il idolâtre un petit peu Bucky, quoi, il aimerait être à sa place.
Il aimerait être engagé comme lui, clairement.
Oui,
ça, c'est sûr.
Oui, bah, il idolâtre un peu, du coup.
Non, bah non.
Et du coup, Bucky lui dit bah, écoute, moi, je vais fêter le fait que je sois admis.
Bah, c'est ma dernière soirée aux États-Unis. Je pars en Angleterre.
On va fêter ça. Direction. Suavemente, bésame. Qu'est-ce qui se passe?
Bucky a trouvé une compagne. Et il a. La fameuse compagne a une copine aussi,
ouais.
Qui présente vite fait à Steve. Et on sent très vite que les femmes ne sont pas ultra intéressées par. Par sa stature un peu chétive.
Par le 1m20 de Steve.
Elles n'ont pas flairé potentiel qui allait arriver.
Il n'y en a qu'une qui a flairé le potentiel dans le film. Elle va être récompensée, mais.
Très compensée.
Et donc là, il se pointe à une espèce d'exposition universelle, un peu, mais new-yorkaise, devant un stand avec le père de Tony Stark.
Qui se passe pile poil dans la Stark Industry, ouais. En fait, parce que c'est la suite en fait, d'Iron Man 2, en fait, c'est au même endroit. Enfin, la suite.
Oui, c'est avant. Okay. Et donc, Tony Stark, enfin, non, Edward Stark, c'est Edward,
ouais.
C'est ça.
Howard
Stark, qui nous gratifie d'une petite présentation de sa technologie, soi-disant révolutionnaire, et qui montre un peu d'où vient le rapport aux femmes de Tony Stark.
Exactement.
Parce qu'il est. Il est assez tactile avec ses assistantes aussi.
Très années 1940.
Voilà.
Ouais. Bah, du coup, elle te présente, tu lui roules une pelle. Mais c'est cute à l'époque, en fait. Ouais,
pas du tout Gérard Depardieu. Quoi.
C'est clair.
Non.
Mais ça nous montre qu'il oscille quand même entre le scientifique et le charlatan. On ne sait pas trop à quel endroit il se place encore. En fait, mais...
bah après, techniquement, quand même, il démontre en 1942, je crois qu'on est à l'époque.
44. 42.
Bon, pendant la 42. Enfin, bref, qu'il arrive quand même à faire une voiture.
Oui, voiture volante.
Qui l'évite quand même.
Oui, et ça, c'est quand même pas rien.
C'est comme si. Bon, c'est une voiture qui l'évite 10 secondes, mais elle l'évite quand même. Donc,
Je veux dire, 60 ans après, t'as seulement un iPhone.
Ouais. Ah, il était, franchement, en termes de technologie, je pense que c'est le mec qu'il fallait suivre. Hein. C'était un peu le Steve Jobs de l'époque, en fait. Hein.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Steve, il est pas trop dedans. Lui, il veut aller à la guerre. Il est frustré d'être soldat. Enfin, il est frustré parce que être soldat, c'était son rêve. Bucky s'en va et Steve va être amené à rencontrer un bien drôle de docteur. Docteur avec un fort accent allemand qui va lui proposer un deal, une expérience. En effet, il va lui valider son dossier.
Bah c'est ça, en fait, c'est qu'il voit à cette fameuse expo universelle qu'il y a encore un cabinet de recrutement, qui s'est fait apparemment refouler par 4, et il dit vas-y, de toute façon, par 4, autant que je tente le 5e. Il sent qu'il va passer un truc bizarre, parce qu'au moment où il discute avec Buck, qui lui dit bah, du coup qu'il va le repasser, étrangement, bah, le fameux scientifique est là et écoute tout, et il se dit putain,
ça tombe bien.
Et se dit putain, le mec a le cœur pur, en fait, il veut y aller, mais tu vois, au sens de sacrifice, etc., pour la nation. Et il se dit putain, le mec s'est fait bolosser, il veut aller se faire bolosser, donc c'est un mec bien.
C'est vrai qu'en règle générale, les gens qui veulent absolument s'engager dans l'armée, c'est pas avec les bonnes intentions.
L'armée, c'est pour tuer.
Bah clairement, tu vas voir, un peu plus tard, il y aura un test. Le mec est névrosé suicidaire. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Quand on voit. Il veut prouver aux autres qu'il est là, mais en fait il veut surtout prouver aux autres qu'il va mourir avec les autres. C'est plutôt ça en fait quand on...
ouais, il a le sens du sacrifice. Ouais.
En parallèle à ça, on retourne du côté de l'agent Smith qui commence à faire lui aussi des expériences avec son mystérieux cube qu'il a récupéré, et on se rend compte que le cube, il envoie du lourd.
Alors, il envoie du lourd. Ça ressemble quand même à un glaçon lumineux qu'on trouve en boîte dans les verres, tu vois. Un truc, enfin voilà, bon, et certes, qui est très lumineux, mais il n'y a rien de ouf non plus. Et le but, c'est d'extraire un peu la puissance de ce fameux cube pour alimenter des armes.
Disons qu'à ce moment-là, il n'y a aucune personne qui s'est dit, je vais le prendre dans ma main quand même pour vérifier si c'est vraiment qu'un cube lumineux. Et je pense qu'ils ont raison.
Mais... oui,
oui, oui. Bah alors, du coup, ça explique pourquoi. Ça explique pas pourquoi il le fera à la fin. Alors.
Non, parce qu'il est teubé. Mais c'est parce qu'il se prend pour un dieu aussi à la fin. Ah, c'est oui, pour c'est ça, en fait.
Retour avec Steve Rogers qui passe son entraînement militaire parce que oui, en effet, il a été validé par le fameux docteur. Et sans surprise, physiquement, il est en dessous. Personne ne veut l'intégrer, il n'a pas d'endurance, mais il n'en reste pas moins malin. On apprend que tous ces tests sont dans le but de sélectionner le soldat qui pourra participer.
Le
passer, ouais, exactement, qui pourra passer le stade de super soldat. Seulement voilà, le chef militaire et le docteur allemand ne sont pas du tout d'accord sur le choix de Steve, pardon, jusqu'au moment où le chef militaire lance une grenade parmi tous les soldats pour voir comment ils vont réagir. Et là, en fait, il y en a qu'un qui saute dessus afin de protéger tout le monde, c'est Steve Rogers. Il faut une grosse paire de couilles pour
ça. Ce qui est contre, mais vraiment, qui est contre dans toutes les... dans aucune formation militaire, on t'apprend de faire ça, en fait, quand, en gros.
Il y a une grenade... t'as un passé militaire ?
Bah oui, parce que j'ai fait une formation de 2 semaines.
T'as fait ta JAPD, gros. Non, tu...
j'ai fait plus.
T'as fait quoi ?
Mais je suis parti 2 semaines au régiment d'intro.
Bah oui, mais excuse-moi, Rambo. Hein.
Vous l'avez pas fait, mais non, moi j'ai appris à tirer au FAMAS et du coup je peux tirer avec un FAMAS.
Ah, mec, je peux tirer avec un FAMAS aussi. Hein.
Bah non, tu peux pas.
Ah, je peux tirer avec
moi. J'ai ma cutie, je peux le tirer avec mon FAMAS.
Et du coup,
excuse-moi, un Captain Sefranc.
Vous l'avez pas, c'est tout. Et du coup, franchement, la base, nous, de temps en temps, ils s'amusaient à ça.
Quoi, moi, j'ai un flocon neige à Chamonix.
Écoute,
tu vas faire quoi ?
Écoute, avant de vanner, de temps en temps, ils s'amusaient à ça, à nous balancer des grenades au plâtre. Et le principe, c'était pas de se jeter sur la grenade parce qu'elle explosait. C'était de se tailler le plus vite possible.
Bah oui, alors, mais peut-être que si tu l'avais fait, tu serais un super soldat aujourd'hui.
Avec connard.
Qu'est-ce que t'en sais ?
T'étais à deux doigts d'avoir du sérum pour con.
Qu'est-ce qu'il est con ?
C'est clair. Mais que sur le podcast, moi, en fait, j'ai fui comme un lâche.
Moi, je fais ce qu'on me dit, je me mets dans la tranchée. Bah non, mec, t'as sauté sur la grenade, tu seras un super
bien
soldat.
Sûr. Donc, vous, quand on lance une grenade, je vais dessus pour être sûr de me sacrifier. Bien sûr, alors, ça n'a aucun sens cette scène-là.
Je sais pas s'il y a des militaires, mais alors je trouve mentalité très pourrie.
Oui, non, mais je suis désolé, la mentalité du gars, c'est
un peu toxique.
Par contre, je suis pas sûr que le colonel Phillips ait compris le principe du super soldat.
C'est-à-dire ?
Bah, parce qu'il est là en train de dire écoute, on va prendre pour faire un super soldat le mec qui est déjà fort physiquement.
Oui.
Mais du coup, c'est complètement con.
Bah, c'est parce qu'il... Non, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en revanche, il écoute les ordres et qu'en plus, il est bien formé.
Oui, non, mais enfin, si tu donnes de la puissance physique à quelqu'un, autant la donner à quelqu'un qui n'en a pas dès le départ, tu vois.
Je suis pas sûr. Ouais. Parce que moi, pour moi, c'est autant donner aux meilleurs soldats possibles toutes les capacités pour qu'ils soient encore au-dessus.
Oui, donc il veut vraiment un soldat.
Bah, le soldat parfait.
Ouais. Ok, ouais, non, c'est logique. Non, autant pour moi.
Du coup, ça nous donne le droit à un discours du docteur le soir venu dans la chambre de Steve pour nous expliquer pourquoi on va le choisir lui et pas un autre. En effet, le docteur nous parle d'une expérience impliquant un mystérieux sérum qui s'est déroulé avec l'agent Schmidt et qu'il aimerait bien refaire avec Steve du coup. Mais qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des effets secondaires comme ce fut le cas avec Schmidt, et ça nous donne ça.
Le sérum est un amplificateur de ce que le sujet a en lui.
D'accord.
Le bien devient meilleur, mais le mal devient pire. Bien.
J'ai compris mieux.
Perroquet.
Et c'est pour ça qu'on vous a choisi. Perroquet. Parce qu'un homme fort, qui a eu du pouvoir toute sa vie, n'a plus de respect pour le pouvoir. Mais un homme faible connaît la valeur de la force. Et il connaît la compassion.
On y reviendra là-dessus, hein.
Merci.
De rien.
Enfin... Tenez, tenez.
C'est du schnapps.
Quoi qu'il puisse arriver demain, promettez-moi une chose. Surtout, restez ce que vous êtes.
Chétif.
Pas un soldat exemplaire, mais un type
ordinaire.
Un bon gars.
À la santé des gringalets.
Mais...
Par contre... Il faut quand même avoir des discussions avant, parce que quelqu'un qui a été bolossé toute sa vie,
une victime donc,
il peut aussi se pointer dans un lycée avec un FAMAS et puis commencer à tirer sur
tout
le monde.
Ah bah mec, tu prends n'importe quelle vicose de collège ou de lycée, tu lui donnes les super pouvoirs, je pense que ça devient tyran.
Et puis surtout, c'est pas ça. C'est donc, en gros, du coup, tu comprends qu'ils veulent former un super soldat, mais le principe même du super soldat, c'est tu ne tueras personne. Tu seras un super neutraliseur. Tu arrives derrière leur nuque et tu leur mets un petit coup derrière.
Non, il veut quelqu'un qui sait quand utiliser la force et quand ne pas utiliser la force. Voilà.
Du coup, retour aux States, où Steve va nous montrer qu'il connaît tous les quartiers car il s'est fait bolosser à tous les angles de rue.
Et surtout qu'il ne sait pas parler aux femmes non plus.
Ah ouais, non, cette scène est vraiment très bonne. Moi, la scène du Uber, alors là, je me suis fait taper, et juste après, et sinon, vous, petite pépé, j'étais en mode...
Parce qu'il est avec l'agent Carter.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
C'est vrai que...
Et juste après, ce qui me fait marrer, c'est que juste après avoir balancé du coup l'argumentaire vraiment ultra machiste, il utilise la deuxième carte, sa deuxième carte face cachée, la carte pathétique. Non, mais vous comprenez, après, derrière, moi, aucune femme ne m'avait invité juste après. Et putain, ça fonctionne. Il passe dans tous les cas, en fait. Il passe de la vicos au machiste et derrière au mec fragile. Et là, l'agent Carter, franchement, ça fait effet. Ça,
c'est... Par contre, on sent déjà que...
Il y a un feeling.
Il y a un feeling, ouais. Ouais. Parce qu'elle a été séduite un peu par son... À son côté déjà plus intelligent que le militaire de base.
Son côté déconstruit.
Et puis voilà, son sens du sacrifice. Il y a quelque chose qui se passe quand même entre les deux.
Donc là, ils sont dans la voiture, et la voiture qui ne va pas les amener n'importe où. En effet, Steve va se faire conduire à la salle de sport la plus efficace du monde, parce qu'il va rentrer dans une espèce de laboratoire clandestin où on va le faire rentrer dans un espèce de pseudo-cercueil. Howard Stark est en train de nous expliquer un petit peu ce qui va se dérouler pour Steve. Donc Steve, il rentre dans un espèce d'énorme cercueil en acier. Mm. On lui dit, écoute mon petit pote, tu vas te mettre dedans. Il va se refermer, on va t'injecter le sérum. Et normalement, Thibaut InShape...
Et on va t'injecter des rayons Vita. Donc on va te faire écouter de la musique de Vita.
Mais on t'a retiré Slimane. Donc a priori...
J'ai passé mes années dans le noir. Mais elle, je le sais, je le sens, elle se fout de moi.
Et là, normalement, t'es...
Mais ferme ta gueule, toi.
Et là, Steve Rogers, il va rentrer dans un endroit où on aimerait tous rentrer dedans.
Je trouve que c'est une belle allégorie de la méthode Disney pour transformer les acteurs, de gringalets à des espèces de monstres de muscles, tu vois.
Peux-tu nous expliquer la méthode Disney pour être musclé?
Eh ben, c'est
officiel, hein.
C'est une méthode où, en fait, au départ, tu es une personne normalement constituée.
Oui.
Et grâce à un régime uniquement composé de poulet, riz blanc et brocoli en 6 mois, tu te transformes en montagne de muscles.
Mais Charlie, est-ce que riz blanc, poulet et brocoli ne seraient pas des mots de passe?
Bah, je sais pas, oui, je pense que c'est plutôt créatine, testostérone et...
et seringue.
Et seringue.
Comment ça balance?
Ouais, on balance. Ouais.
Peut-être que vous avez tous les deux juste des physiques de faibles et que ça fonctionne pas sur vous. Hein.
Possible aussi, mais.
Parce que toi, t'as pas du tout un physique de lâche.
Et moi, j'ai pas du tout essayé le poulet, le brocoli et le riz, hein. Peut-être que ça fonctionne.
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le cercueil se referme sur Steve et là, il va commencer à douiller sa mère. Ceci dit, hein, je veux pas vous spoiler, mais quand je vois le résultat. Mais 15 fois, je le fais, ça.
Après, moi, ce qui me fait marrer, c'est que du coup...
On connaît pas la douleur non plus.
On connaît pas la douleur. Parce que il est quand même très sadomaso. Du coup, il commence à gueuler quand même de ouf, ça lui fait mal. Et là, tout le monde veut arrêter l'expérience, mais lui, là... Non, c'est bon. Je peux tenir encore et tenir toute une semaine comme
je
ça.
Je sens que ça vient. Je sens que ça vient.
Bah oui, parce
ramène
que...
le cône de chantier.
Ramène le cône de chantier.
C'est quasiment ça.
Steve, c'est pas du tout le délire. Autant pour moi. Oubliez ce que je viens de dire. Continuez.
Je suis désolé, mais on est à deux doigts que ce soit ça, en fait.
J'ai l'impression que tu parles vachement de sadomaso depuis tout à l'heure.
Mais je suis désolé, moi, franchement, ouais. Steve Rogers, sur plein de points, est sadomaso.
Et donc là, t'as l'agent Carter et Howard Stark qui, entendant Steve en train d'hurler, commencent à dire « Non, attends, on va peut-être arrêter l'opération. » Et là, t'as Steve qui commence à dire « Non, mais c'est bon, je peux encore encaisser. » Et qu'est-ce qu'il a bien fait de dire ça?
Ah la vache.
Après, peut-être qu'à 70, il aurait peut-être juste pris déjà 20 cm. Hein.
Comme dans tous les films, c'est, il commence à monter la manivelle. Tu vois l'espèce d'aiguille qui monte à 100%.
Bien sûr, même 110%.
Oh. Et là, il gueule plus. Hein. Il gueule à 70, mais au-dessus, il gueule plus. C'est la puissance.
Arrêtez, je vais être trop beau gosse.
Et c'est normal parce que ses cordes vocales sont en train de s'élargir aussi, tu vois. Et puis ça...
Arrêtez.
Parce que je deviens trop beau gosse.
Et là, putain, l'expérience se termine. Oh, le cercueil s'ouvre.
Qu'est-ce que je vais faire de la taille de ses couilles?
Quoi?
Pardon?
Thomas?
Peut-être qu'il a une poussée de croissance aussi à ce niveau-là, on ne sait pas en fait, en gros.
Mec, l'expérience se termine, le cercueil s'ouvre. Il a bien fait de ne pas crier stop parce que quand il sort, oh, c'est quelqu'un.
Ah bah le garçon a pris 30 cm, 30 kilos aussi.
Il sort en fumant quand même, donc ça veut dire quand même qu'il était dans une séance de salle où il a fait du sale. Du coup, bah, il arrive tout transpirant. Et là, on a le droit à Agent Carter en mode ultra gourgandine. Ah putain, vous avez pris. Je touche. Ah ouais, c'est bien épais. Hein. Apparemment, ça, c'était quand même pas abusé.
Semblerait-il que c'était une scène improvisée, ça.
Ouais.
Ça, c'est dommage parce que ça va pas du tout avec le personnage.
J'ai l'impression qu'elle était séduite avant.
Ouais.
Et là, c'est la dernière.
Et dans le même moment, donc, on a le fameux agent du gouvernement qui était présenté donc, avec le sénateur, mais on s'y attendait pas du tout, qui laisse de façon. On s'y attend pas, mais la réalisation nous le montre de façon discrète. Son étui à cigarette sur une chaise, et là il arrive et discrètement bah, il reste une fiole de sérum, il la prend, du coup grâce à son briquet magique il arrive à faire exploser le truc qui crée une diversion, et là putain au même moment il sort également alors que tout le monde a été fouillé, mais va savoir comment lui a pas été fouillé.
Ouais, c'est vrai.
On s'en bat les couilles, ça sert à rien. Attends, c'était juste un labo secret.
Personne n'est fouillé.
Oui, c'est vrai.
Attends, c'est rien, les mecs qui rentrent ils sont un labo secret.
Mec,
enfin, bref,
j'ai vu que deux personnes qui sont rentrées, Carter et Rogers, ils ont jamais été fouillés de leur vie.
Eux en même temps, je te rappelle que c'est l'agent Carter qui appartient au truc et le fameux super soldat qui va être testé. Donc après,
il arrive
c'est
le
pas
mec,
un super soldat.
Le mec arrive avec le sénateur qui est censé financer toute l'opération. Donc
ouais, je sais pas, enfin ça a pas de sens. Mais du coup, il bute le fameux scientifique, je ne sais plus comment, allemand, qui avait la formule.
Erskine, oui, parce qu'il pensait qu'il pouvait arrêter les balles par la pensée, mais en fait, non.
Dingue, hein.
Voilà, et donc du coup, il les arrêtait avec le cœur.
Ceci dit, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où le mec dégaine son flingue, tout le monde se couche, sauf le docteur.
Oui, bah oui,
il
s'est dit,
oh non, regardez, mais je suis une cible.
J'ai le pouvoir du cœur. Non, mais pas au sens littéral. Bah, non, c'est mort.
Et là, le capitaine, quand il voit ça, il dit, putain, non, je peux pas laisser passer ça. Ça va être ma première mission. Et là, l'espèce d'infiltré commence à se péter dehors, tu vois, pour s'enfuir avec sa fiole de sérum.
Poursuivi par l'agent Carter.
Poursuivi par l'agent Carter, et surtout poursuivi par Steve Rogers, qui, au fur et à mesure, est en train de découvrir ses pouvoirs, et pas des moindres. Bon, déjà, premier super pouvoir, il est super beau gosse.
Oui, il a un t-shirt super serré. Aussi.
Pourtant, c'était du XL.
Le pantalon est passé de trop large à super serré aussi.
Ah oh, la vache, c'est clair.
Quand il se met à courir.
Ah oh, la vache.
Franchement,
tout le monde d'accord.
Je me suis dit, ah, je pourrais garder ses pecs sauter là, comme ça, pendant.
Ouais, ouais, c'est pas ça, c'est
une petite demi-heure.
Hein.
Ouais, je sais pas pour vous, mais moi je l'ai regardé en slow motion. Je l'ai mis au ralenti.
Moi pendant la scène de course, je me suis dit putain, c'est à ça que veut ressembler Tom Cruise quand il court dans ses films en fait.
Et donc Steve Rogers se met à courir après la fameuse voiture, à pied, pour nous montrer qu'il va aussi vite qu'une voiture.
Et qu'il court et qu'il saute.
Et c'est ce qu'on appelle une.
C'est Black Panther en fait. Hein.
Qu'on appelle quoi?
Une haute poursuite.
Ah ouais, grave.
Parce qu'il est sexy à mort.
Vous êtes gênant, mais très bien.
Toi, tu t'es juste attardé sur l'agent Carter, mais nous, on sait voir des deux côtés, tu vois.
Vous, en fait, je pense que vous êtes attardé, vous avez dit, putain, on peut ressembler ça à la salle en bouffant plus de brocolis.
Ah oh, non, pas du tout. Ouais, non, je sais très bien où j'en suis.
Ouais, j'avoue, moi, un peu.
Non, voilà, pas du tout.
Bah, du coup, après, il décide de faire du trampoline sur les voitures pour réussir à atterrir sur la voiture du méchant allemand. Il lui tire dessus, mais il n'arrive pas à le buter. Là, le méchant allemand arrive au port. Et juste après, du coup, bah, il poursuit le méchant allemand qui avait le droit à... Ça ressemble un peu à James Bond, quand même.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Et du coup, qui a un super sous-marin miniature. Alors, le truc qui est pas logique, c'est que c'est un sous-marin miniature une place, mais à la base, il avait un collègue qui était avec lui, mais on s'en bat les couilles. Ouais. Du coup, Captain America se dit, de toute façon, sur Terre... Bah franchement, je suis l'équivalent d'un léopard, donc dans les mers, je dois être l'équivalent d'un dauphin. Donc il nage, il rattrape un sous-marin, hein, il le chope et il se dit, bah, attention, au point où j'en suis,
je dois avoir le pouvoir du dauphin.
C'est clair, maintenant avec une patate, je dois peut-être réussir à éclater une vitre qui doit aller dans le sous-marin. Bah il y arrive en fait.
Ouais. Oui, bah c'est un surhomme. Hein.
Ah,
oui.
Il est quand même costaud quand même.
Ah oui, bah il est
surcostaud.
Et
là, du coup, il arrive à récupérer le gars. Et là, c'est juste le bad move. C'est comment il récupère le gars en le ramenant à terre, en tombant par terre. Ah, il pète la fameuse fiole de sérum, ça c'est pas de chance.
Ah non, c'est pas plus mal.
Bah non. Parce que ça aurait été bien de
ça
pouvoir
aurait,
faire des
bien.
Autres super
ouais, soldats.
Non, mais c'est bien pour les gentils.
Bah non, parce qu'ils auraient bien aimé faire des autres super soldats.
Oui, c'est ça.
Ça marche.
Et du coup, là, le super soldat, elle se regarde. Et c'est là où on apprend, du coup, quelle est la devise d'Hydra. C'est en mode, bah, il se suicide en allant chercher une petite fiole de cyanure. Ce qui fait très James Bond, quand même.
Ouais.
En mode, une tête est coupée, mais deux repousseront. Hi, Hydra. Et voilà, il meurt.
Et là, on nous reparle une fois encore du groupe Hydra. Et on sait qu'il existe, mais on ne sait pas tout à fait ce que c'est, si ce n'est que c'est un groupe allemand qui semble assez éternel.
Bah, on sent que c'est des nazis, mais au-dessus des nazis, quoi, en fait.
Non, c'est censé être le pendant scientifique occulte des nazis.
En parlant du groupe Hydra, on retourne avec l'agent Schmitt qui semble trouver Hitler un peu mou de la botte.
C'est ça.
Oui. Il a des plus grosses ambitions.
Ouais, les problèmes juifs, il n'y a pas que ça, franchement, au niveau mondial, quoi, en gros.
C'est... Hitler, vous parlez de le stagiaire, là?
Non, oui, c'est bon, c'est... Lui, il voit plus grand.
Ouais.
Voilà. C'est clair.
Clairement,
c'est clair.
Beaucoup
excuse-moi,
plus grand.
Excuse-moi, Hitler. Can't you... you can think big. Ça me ferait marrer.
Plus en allemand, du coup.
Oui, plus en allemand, ouais.
Ouais, j'arriverai à le servir. Non,
bah, ferme ta gueule, alors.
C'est tellement gratos. Enchaîne là-dessus. Enculé.
Et donc, ils sont là pour inspecter un peu l'avancée de ses travaux. Ouais. Et comme il a réussi à récupérer le pouvoir du cube fluorescent...
Ce qui n'est pas rien, quand même.
Eh bien, il les bute tous les trois. Oui. Non, mais il est en train de, clairement de montrer qu'il veut s'émanciper donc, de l'Allemagne nazie et mener sa c'est propre ça. Opération de conquête du monde.
C'est clair. Bah, c'est, de toute façon, c'est ce qu'il montre. Ce qu'il montre, qu'il a, il a ciblé toutes les capitales du monde et un nazi est en train de se dire « Mais attendez, il a ciblé Berlin !» C'est quand même trop méchant après. Non, on touche pas à Berlin quand même.
Retour aux États-Unis où on accuse le coup de la mort du docteur, mais surtout une question se pose sur toutes les lèvres, à savoir Hydra. C'est qui, c'est quoi ? On nous explique donc que c'est le mouvement créé par l'agent Schmitt et qu'ils sont assez vénères et que l'Amérique va partir en guerre pour les éclater. Il n'en fallait pas plus pour Steve afin d'être chaud patate et de se joindre aux soldats. Seulement voilà, l'Amérique a un autre plan le concernant, à savoir l'utiliser pour faire la promo de l'armée et inciter les gens à devenir des soldats.
C'est quand même hyper pratique les nazis. Dès que tu veux créer un super méchant, tu crées un nazi encore plus nazi. Ouais, c'est toujours clair. Le nazi ultime en fait, en gros.
Du coup, Steve, en fait, il va devenir une publicité géante, mascotte ultra ringarde.
Il devient influenceur en fait.
Ah ouais, non, c'est ça.
Il apprend le théâtre.
Petit numéro musical.
Tristesse. Franchement, il est pathétique à ce moment-là.
Moi, pathétique, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est vendu parce que c'est très important la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale et ça t'est hyper bien montré en fait d'une certaine manière.
Steve, il est un peu deg parce que concrètement, c'est assez loin de ce que lui
il avait
en tête.
Il est pas deg à ce moment-là.
Si, il voulait aller au front.
Il est deg que à partir du moment où il va au front. Les soldats qui se foutent sa gueule.
Il voulait aller au front au début. En disant, parce que toute l'organisation, là, donc, gouvernée par le colonel Phillips, va partir en Europe pour affronter le Hydra. Donc il y a Stark qui va, Carter aussi. Et au moment où Rogers veut y aller, il lui dit non, mais alors vous êtes une espèce de.
T'es une mascotte de foire.
Donc vous n'allez pas venir avec nous et vous restez ici. Ce que je trouve con parce qu'il a l'air quand même d'être. Physiquement.
C'est un super soldat quand même. Donc,
tu peux toujours l'utiliser.
Mec, je vois pas l'intérêt d'avoir pris du sérum. D'être ultra chaud pour au final n'être qu'une pub géante en fait.
Surtout que derrière, après, je pense qu'il l'utilise de la façon la meilleure façon possible. En gros, ça devient, il crée après une sorte d'équipe de commando. Donc s'ils auraient pu le faire après, plus tôt.
Du coup, là, Steve, il est dégoûté, mais alors là où il va prendre cher, très clairement, c'est quand il va faire une représentation au niveau d'un camp militaire. Où là, il comprend clairement qu'on n'est pas sur les shows publicitaires. Oui. Il est au front, il est en train de faire sa promo qu'il fait habituellement sur les shows télé. Et clairement, les soldats, ils sont en train de se foutre de sa gueule, quoi. Il dit, mais mec, tu crois que t'es qui, toi ?
Autant il est populaire au pays où il est un peu star, célébrité, star de cinéma même, ça nous est montré. Autant sur le front, donc avec les vrais soldats qui sont en train de se battre, ils sont en train de dire, mec, en fait, t'es pas un soldat, quoi.
Bah, ils lui disent. Ils lui disent, t'es majorette, en fait. Ouais, ça, en fait, quand moi... Comment je l'ai perçu. Au début, il est dégoûté.
Parce que t'as fait l'armée, tu nous avais dit. Hein.
Ouais. Pas du tout. C'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Mais là, au début,
t'as fait
le
Vietnam, toi.
Ça aussi. Mais bon,
ensuite, l'Irak.
Ça, vous savez pas ce que c'est. Bon, chacun son truc.
Et l'Ukraine aussi.
Pas encore. Malheureusement, ça finira par arriver.
Mais t'inquiète, j'attends le coup de téléphone de Macron.
Non, mais ce que j'ai apprécié, c'est que au début, il est blasé, clairement, de pas y aller. Ouais. Mais moi, je suis désolé, comment tu le vois au niveau de son sourire. Au début, il est stressé de faire le truc. Mais après, il a du plaisir, en fait, à monter son cabaret.
Je suis pas une célébrité, il est adulé un peu partout.
Bien sûr.
Ouais, non, mais tu kiffes. Au fond, c'est pas ce qu'il voulait faire.
C'était pas ce qu'il voulait faire. Mais après, d'une certaine manière, il participe à l'effort de guerre en vendant des bons, etc. Donc en développant, comme il l'explique, chaque fois qu'il y va, il y a 10% de vente de bons supplémentaires pour pouvoir acheter des armes.
Il
participe d'une certaine manière en aidant un peu les copains.
Oui, c'est un peu comme je me fais chier dessus en Arabie Saoudite et du coup je donne l'argent à une organisation et l'organisation sauve les bébés phoques. Oui. Donc si je me fais chier dessus, je sauve les bébés phoques.
C'est ça.
C'est un peu l'idée.
En tout cas, il est en train de déprimer et quoi de mieux que l'agent Carter pour venir un petit peu le réconforter de courte durée parce que l'agent Carter, elle va lui faire une révélation et c'est quoi cette révélation ?
Bah, elle va appuyer la tête sous l'eau, elle va lui dire que clairement il sert à rien en fait d'une certaine manière et qu'en plus son meilleur ami Buck qui appartient à la 107e, du coup.
Est porté disparu.
Et là, du coup, c'est le février. Il décide de dire, attends, il faut que je serve à quelque chose. Je vais aller voir directement le sergent-chef aigri et je vais lui parler.
Tiens, voilà notre porte-bannière étoilée. Qu'est-ce qui vous amène, soldat ?
Je voudrais la liste de ceux qui sont tombés à Azano.
Je ne suis pas à vos ordres.
Je cherche le sergent James Barnes du 107e régiment d'infanterie.
Ok.
Il faudra qu'on ait une conversation un peu désagréable tous les deux.
J'aimerais savoir s'il est encore vivant. B-A-R.
Je sais écrire.
Attendez, le lieutenant Azano, il a trois autres frères ? Il va falloir que j'aille le chercher en fait,
soldat Ryan.
J'ai signé tellement de lettres de condoléances aujourd'hui que je ne sais plus trop où j'en suis.
Ouais, quatrième Azano.
Ce nom me rappelle quelque chose. Je suis désolé.
Azano ?
Et les hommes qui sont encore ? Il y a un plan pour les récupérer ?
Oui, il faut qu'on gagne la guerre.
Je crois qu'il pleut derrière.
Mais si vous savez où ils sont,
ils sont à 50 km au-delà des lignes. Il faudrait traverser un des territoires les plus fortifiés de toute l'Europe et on perdrait plus d'hommes qu'on en sauverait, mais ça dépasse les compétences d'une meneuse de revue.
Voilà, donc c'est suicidaire.
Clairement.
Je pense que j'ai d'autres compétences.
Voilà, j'y vais.
Eh bien, allez donc les démontrer ailleurs. Si j'ai bien lu vos affiches, vous êtes attendu quelque part dans 30 minutes.
En même temps, il jette sur une grenade.
Non, mais c'est important pour la construction du personnage, je suis d'accord. Mais en gros, l'explication, si t'es juste logique, il se retrouve au milieu des lignes allemandes en Autriche. Il est seul. Le gars, c'est suicidaire, en fait. Gros.
Bah non, mais c'est un super soldat, là. Bah oui. Parce que autant se jeter sur une grenade quand t'es un être humain normal, je peux comprendre que ce soit suicidaire. Autant aller derrière les lignes ennemies quand t'es Captain America.
Oui,
et aller. Heureusement qu'il n'a jamais pris de super sérum, lui, parce qu'il nous aurait servi à rien du tout.
Que dalle.
Ah la vache. Oh non, les gars, il n'y a pas de PlayStation. C'est mort.
Le pot de cornichon, là.
Non, les gars, je vois pas, les gars.
Je vous entends, c'est incroyable. Eh, les gars, le débarquement, mais ça sert à rien. J'y vais tout seul. Je suis un super soldat.
Mais mec.
Vous êtes des débiles, mais.
J'affronte déjà la vie,
quand. Bien sûr, c'est clair.
Du coup, Steve, qui a repéré la zone, décide de s'y rendre et Carter va l'accompagner dans un avion piloté par Howard Stark. Oui. On est d'accord qu'à ce moment-là, il y a une espèce de petite tension.
Bien sûr, mais
entre Steve et Carter.
Ils essayent de t'instaurer un petit triangle amoureux, tu vois, dans le genre. Je sens qu'il y a une étincelle avec l'agent Carter, mais je ne sais pas si l'agent Carter qui vient de passer plusieurs mois avec Howard Stark,
qui est ni plus ni moins la version édulcorée de Tony Stark.
Non, pas du tout édulcorée. Ah, non.
À l'époque, il roulait des pelles à des pauvres assistantes qui venaient juste présenter une voiture. Non, oui. Moi, je pense qu'en gros, tu peux juste dire, je suis désolé, le père et le fils, c'est exactement les mêmes chez les Stark.
C'est vrai.
Avec juste une différence de génération, mais pour moi c'est les mêmes. Du coup, là, Howard Stark commence à vouloir chauffer l'agent Carter, disant, vous savez, on est du côté de Genève, ça Lucerne. Vous dirait pas qu'on aille, ouais, Genève, Lucerne. Putain, on est en Suisse, nique ta mère. est-ce que vous voulez pas
allez,
qu'on
nickel,
se fasse
on vient
une
de
petite
auditeur.
Est-ce que vous voulez pas aller vous faire une petite fondue avec moi, Jean Carter? Et là, c'est le moment où on se dit, c'est le moment où on se dit Captain America, bah vous savez quoi, je vais me barrer. Et au moment où il se barre, bah, il prend son parachute et il saute comme un bonhomme.
La DCA décide de se réveiller en disant « Oh putain, un avion dans le ciel, tiens, si on faisait notre taf. »
Un avion civil, c'est clair. Voilà. Parce que c'est clair que les avions civils, pendant cette période, il faut le savoir, pendant la période 39-45, tu volais tranquille, il n'y avait pas de problème. Personne ne te tirait dessus.
Ah bah non.
T'annonçais pas ton plan de vol, on ne te descendait pas, tu ne pouvais pas être un avion espion.
C'était l'équivalent des voitures Google. Tu sais, elles prenaient des photos pour que tu puisses te repérer.
Parce que le mec, en plus, il est en accord, il a un avion civil, mais qui vole, mais le plus bas possible.
Ouais.
Donc, qui est juste une cible parfaite, en fait, en gros.
Il réussit à s'infiltrer dans la base en sautant en parachute, et là, il commence à éclater les gardes un par un. Il tombe sur une mystérieuse source d'énergie à base de lumière bleue, pardon, et il prend un échantillon au passage, parce que bon, voilà, on ne sait jamais. Il commence à libérer tous les soldats, oui.
Là, c'est une mission d'infiltration en mode histoire, quand même. Parce que c'est. Enfin, je veux dire, ils punchent des gars. Il y a d'autres types qui sont à 2 mètres, ils n'entendent pas les coups.
Non, moi, je suis désolé, c'est la chose que je retiens de ce film. Je suis désolé, le service sécurité en 39-45.
Laisse à désirer.
C'est pas laisse à désirer. C'est des ultra-merdes, on est d'accord. Il y a un mec qui arrive à infiltrer un bureau pour aller chercher un sérum de super soldat, nique ta mère. Ça peut changer toute la guerre, en fait. Et là, les mecs ont des armes. Avec une arme extraterrestre, tu peux littéralement vaporiser les gens. Il y a pas de problème. Tu rentres dedans, mais sans aucun problème en fait. Après, bon, on est d'accord, ça aide le scénario, ça te fait avancer. Mais enfin, bref, il s'infiltre très facilement, on va dire quand même dans la base.
Du coup, il commence à libérer les soldats, mais surtout, il se présente pour la première fois officiellement et sans être dans une pub. Et ça, c'est stylé parce que il arrive dans un espèce de costume, hein, Steve Rogers, et les mecs disent oh putain, mais t'es qui toi? Et le mec commence à dire pour la première fois devant des soldats qui sont capturés, il commence à dire bah je suis Captain America en fait.
C'est vrai qu'il est un peu dépassé par son personnage. Là.
C'est vrai que c'est assez stylé parce que quand même, il y va littéralement en collant et en bottes.
Ouais. Oui, mais en blouson en cuir.
Et avec un casque. Mais c'est tout,
puis
en fait.
C'est cheap. Hein. Allez, au moment-là, c'est assez cheap.
Ça, c'est juste, en fait, je pense, pour respecter le comics. Mais c'est quand même assez intelligent, je pense, des scénaristes.
Voyant que les soldats s'échappent, Schmidt pète un plomb et déclenche l'alarme. Et du coup, ça pète de partout.
Ça le gars, il a la gâchette facile, quand même.
Qui
c'est le mec, il ouvre un paquet de chips, il y a une chips cassée, il dit bah, vas-y, jette le paquet, quoi.
Après, il est pas con aussi, parce que quand il regarde les vidéos, il se dit attends voir, je crois qu'il y a un super soldat qui est là.
Et lui, c'est pas un super soldat.
C'est clair.
De son côté, Captain America retrouve Bucky. Bucky, qui, pour le coup, est assez mal en point, mais alors surtout, Bucky va être sur le cul du changement physique de Steve Rogers.
Oui, parce que 6 mois plus tôt, il regardait sa calvitie. Et là, il regarde ses narines. Et du coup, il se dit, bah, attends, est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
Mais attends, mais c'est quoi ta recette là pour être aussi starf?
Non, c'est pas ça. C'est qu'il regarde et qu'il dit, non, non, mais moi, tu sais, je me nourris juste à base d'abricots secs,
de brocoli.
C'est clair.
En fait,
deux, trois fraises.
La dernière fois qu'on a discuté ensemble, je me suis beaucoup remis en question. Je me suis dit, les brocolis, le poulet, pourquoi pas? Et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ils essayent de s'échapper, mais comme la base est en train d'exploser,
oui,
ils sont obligés de monter un peu
sur les hauteurs,
voilà, ouais, dans les combles. Et là, ils tombent sur l'agent Schmidt, sur une espèce de petite passerelle. Et là, tu commences à avoir affrontement Captain America versus Red Skull et Zola qui s'improvise arbitre alors qu'on lui a rien demandé et qui interrompt le combat au premier round.
Ouais.
On découvre à ce moment-là que
l'agent Schmidt
porte une espèce de masque et il enlève son fameux postiche facial.
Il s'avère que en fait Red Skull a fait un cosplay de l'agent Smith, oui, de Matrix.
Exactement.
C'est bien fait quand même. Putain.
Je vais prendre beaucoup de plaisir à vous voir mourir, Monsieur Rogers. Et donc là, il dévoile son vrai visage. Et j'avoue qu'il a un petit style quand même. Bon, avec un physique pareil, tu peux faire soit nazi, soit communiste.
Ouais.
Parce que t'as pas vraiment le choix.
T'as un problème de narine aussi.
Ouais, tu prendras pas de l'acé si facilement.
Exactement, mais on pense que je me suis dit.
Il a tapé sévèrement.
Lui, il a trop tapé.
Oh, j'ai les cloisons nasales un petit peu défoncées.
Bon, je les ai coupées comme ça va plus vite.
Il a tapé des trucs sales.
Il a tapé de la poudre de cube bleu.
Moi, l'héroïne, c'est par le nez.
Ça explique votre gueule rouge un peu.
Moi, vous savez, je vais dans l'espace, entre les espaces.
Qui sont déjà eux-mêmes entre les espaces.
C'est clair.
Et donc voilà, il nous montre son vrai visage et il s'échappe.
Il s'échappe grâce à une fusée avion. Ils sont très fusée avion.
Franchement, que Batman aurait pu avoir.
Non, mais c'est ça. Parce que de toute façon, il donne au professeur Zola les clés de sa voiture et sa voiture, c'est une Batmobile techniquement en fait.
Ah oh ouais, mais c'est la Batmobile. C'est
la Batmobile. C'est la Schmidtwagen.
La
Schmidtwagen. C'est la auto.
C'est la Red Skull Wagon, mais tu comprendras plus tard qu'elle a un réacteur. Donc c'est une Batmobile en fait.
Donc là, le film nous montre une explosion, nous laissant croire que Captain America est mort. T'y crois pas du tout et t'y crois encore moins lorsque finalement Captain America se pointe avec tous les prisonniers.
C'est un petit moment de suspense quand même.
Ouais.
Le colonel arrive, commence à rédiger une lettre, etc. Il pose un serment.
Steve Rogers est mort.
C'est ça. Il passe un serment à l'agent Carter en mode vous avez vraiment fait de la merde. Et là, tous les soldats, veulent savoir pourquoi, en mode ultra instinct. Putain, quelqu'un arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, j'ai pas l'ultra instinct également. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Et là, Captain America, qui a fait du théâtre, arrive et du coup fait une entrée théâtrale en mode alors. C'est qui a les plus grosses? Et c'est clairement ça, en gros. Quoi.
À ce moment-là, Captain America, il est en train d'écrire sa légende.
Bah, tous les soldats qui étaient en train de se foutre de sa gueule, de son costume, maintenant, ils sont conquis.
Parce qu'il a quand même le droit.
Une fois que tu risques ta vie pour des GI,
là, t'es quelqu'un.
T'es tellement quelqu'un que t'as le droit après d'art, chica-chica-chic, quand même.
Ouais. Une petite apparition de Stanley plus tard, on se retrouve dans un QG militaire afin de faire le point sur le nouveau plan d'attaque. Plan d'attaque qui veut mener Captain America. Du coup, ça va dans un bar pour discuter avec tous ces gars.
Mmh. Ouais, il monte son équipe, son petit commando pour repartir au front.
Son crew. Et on voit surtout que l'agent Carter, elle commence à chiner de plus en plus. Steve Rogers, a.k.a. Captain America.
Ce qui est incroyable, c'est que
l'agent Carter n'est pas venu au bar pour boire que des verres.
Ouais, la scène précédente, ils sont tous les deux ensemble, mais du coup, elle attend qu'il aille au bar pour pouvoir mettre sa plus belle tenue et pouvoir parader devant lui là, en lui montrant un peu ses...
C'est un pan, en fait, un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est un petit peu en parade.
Mais j'avoue qu'elle fait taire des bouches, quand même.
Le lendemain, Steve se rend compte que c'est littéralement un aimant à meuf, vu que lorsqu'il se rend à la base pour voir Stark, il est à deux doigts de se faire violer par une meuf, et ça nous donne ça.
Vous avez sauvé 400 types?
Eh oui.
400 types. Attends, j'ai pas vu cette version. Bah, en français, c'était le même truc que...
Bah, c'est en français, là.
Ouais, mais j'avais pas vu la version.
Les journaux ont un peu exagéré.
Modeste.
Allez dire ça à leurs épouses.
Je les connais pas.
Ils n'étaient pas tous mariés.
Vous êtes un héros.
J'en vais
Oui, non, ça dépend de ce que vous appelez...
Toutes les femmes d'Amérique devraient vous remercier.
C'est à qui cette grosse braguette?
Et vu qu'elles ne sont pas là...
Allez. Je vais vous remercier 400 fois.
Santé. Quand je t'ai dit qu'elle terminait son assiette.
Captain, ce sera quand vous voudrez, ou plutôt quand vous aurez terminé.
Ah, et vlati pas que l'agent Carter, elle fait sa petite rageuse.
Oh non, le mec, mauvais, franchement, mauvais...
Mauvais mood.
Ouais, non, mais très, très. Ah putain, j'arrive pas à le dire.
Surtout que si tu comprends bien, c'est la première meuf qu'il embrasse. Et c'est pas l'agent Carter. Donc
très mauvais move de la part de Steve Rogers. Quand même.
Putain, c'est vrai que dans le film, la première meuf qu'il embrasse, c'est pas l'agent Carter. Il la cadrera pas non plus.
Et non, et tu comprends techniquement dans sa vie, c'est la première meuf qu'il embrasse.
On y reviendra, mais je pense qu'il a déjà consommé avant. Mmh. Effectivement, hasard de scénario qui tombe très bien. Ouais. Au moment où Steve est en train d'embrasser cette fameuse militaire très reconnaissante. L'agent Carter arrive dans son dos.
Qui aime servir le drapeau, quoi.
Exactement.
En fait.
L'agent Carter arrive dans son dos et est assez estomaqué du comportement de ce brave Steve, quand même.
Oui, parce que l'agent Carter, elle joue un double jeu. Genre, non, mais attends, je me fais désirer, mais je te veux grave.
Comment ça, elle joue un double jeu?
Franchement, je suis désolé, je suis d'accord avec Thomas. Elle fait le chaud-froid depuis le début.
Bien sûr.
Et là, elle se prend. Après, elle se prend un coup de pute.
Mais quel chaud-froid? Elle l'allume depuis le départ. Elle fait que du chaud.
Elle fait la jalouse, mais...
Bref, Captain, qui discute avec Stark, se voit proposer le fameux bouclier en vibranium. En vrai, honnêtement, le film, il se construit bien.
Après,
tu vois,
cool.
La réelle, elle est pas mal. Le bouclier en vibranium, il arrive au bon moment. Franchement, ça fonctionne en vrai.
Mais là, pour moi, c'est James Bond à 100%. Parce qu'on est d'accord qu'il va partir sur une mission d'infiltration.
Attendez.
Moi, c'est exactement ce que j'ai noté. Je suis d'accord avec Charlie.
Sauf qu'une fois de plus, il y a une petite meuf qui s'emballe, tu vois. Parce qu'au moment où Howard Stark qui commence à lui dire « Tiens, je te présente un bouclier en vibranium », Captain America, il est là, genre « Ok, ça marche, ça fonctionne. » Vlatipa, qui est la rageuse.
Elle est colère. Hein.
De l'agent Carter qui a vu Steve Rogers embrasser une autre meuf, qui dit bah tu sais quoi, bouge pas, vas-y, je vais tester. Elle commence littéralement à lui tirer dessus.
Mais à juste titre, le mec lui balance le discours du non, mais j'attends la bonne partenaire, et puis au final, la première blonde qui vient le chauffer un peu, il l'emballe.
Après, là où je trouve que c'est exagéré, c'est quand même un super soldat. Alors oui, il porte un truc en fer, t'as quand même à deux doigts de buter un super soldat juste pour pouvoir tester l'arme. C'est exagéré, mais c'est stylé. Ça reste stylé.
Disons qu'heureusement qu'il a des bons réflexes.
Disons que pour l'histoire et pour la légende, c'est incroyable. Si le vibranium, c'était un métal éclaté au sol, pour l'histoire, ça aurait été beaucoup moins.
Si Howard Stark qui dit ah merde, ben, je pensais plus résistant, autant pour moi.
Ah, j'ai dit vibranium. Ah, je pensais à ferraille de merde en fait. Excusez-moi.
Non, c'est de la tôle en fait.
C'est du papier à lui depuis le départ. Donc là, après, on a le droit à un petit montage qui nous montre le Captain America en train d'accomplir des petites missions
des
de sabotage tout à travers l'Europe.
Très badass.
On remarque aussi à ce moment-là qu'il n'est pas styliste parce qu'il a demandé à Stark de lui fabriquer son costume. Ouais. Et franchement, je le trouve dégueulasse. Ah non, si mec, on est entre le bleu
le
travail matelassé.
Le pyjama était moche. Là, bon, c'est juste un peu rétro. Quoi, en fait.
Déjà, il prend la confiance.
Ouais,
donc, pour le couplet du gars, oui, non, mais vous connaissez la
valeur comme
du
les
pouvoir
autres.
Et tout. il cause beaucoup de chahut dans les plans d'Hydra qui projetait plus ou moins d'envahir l'Europe. Et donc, l'agent Schmitt en veut énormément au professeur Zola. Alors, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il y en veut de pas arriver à contrer Steve Rogers. Alors
non,
que le mec est juste scientifique,
ouais,
en fait,
c'est
pas un militaire.
Ça, c'est gratos. C'est juste qu'il est vénère et qu'il faut un bouc émissaire, en fait.
Voilà.
Scène suivante, c'est l'opération train. En effet, Captain et sa team vont devoir sauter sur un train en marche d'Hydra afin d'aller leur botter le cul, hein, bien évidemment. Et là, ça se complique car le train est blindé d'espèces de soldats en armure dernière génération équipés de l'énergie du cube bleu.
Et c'est un piège.
Et il y a le méchant Hobbit Zola. C'est pas tellement un piège, en fait.
Ça sent l'embrouille dès le départ.
Ouais. Après, moi, ce qui me fait
marrer,
c'est
dans la pièce, t'as un point de sauvegarde, des munitions, c'est très bien.
Resident Evil. Voilà.
D'accord. On est dans le jeu vidéo, je sais plus comment il s'appelle, où ils font une infiltration en train, mais
Metal Gear Solid.
Non. l'autre sur PlayStation, je sais plus comment il s'appelle.
Zelda.
Bref, on s'en bat les couilles. Moi, la seule chose que je retiens, déjà, il s'infiltre à 3. Il y a un personnage qui disparaît, on sait pas lequel. Du coup, il y a la vieille scène du. Oh non, Bucky est isolé, il faut que j'aille combattre. Je combats, je bats mon super soldat. Bucky n'y arrive pas, je viens l'aider. Et là, il y a une explosion. Et va savoir pourquoi Bucky, juste pour la scène, même si c'est un peu stylé, récupère le bouclier Captain America, histoire de te faire clin d'œil. Ce sera peut-être le prochain Captain America.
On se reverra dans le 2.
Ouais, c'est clair, dans le futur. Et malheureusement, c'est une fin de tournage pour Bucky. Il y a une explosion. Bucky se retrouve accroché. Un bout de paroi du train tordu qui tend au-dessus d'une falaise dans le vide. Et là, Captain America vient l'aider. Et là, Captain America se rappelle qu'il n'a pas de physique. Enfin non, Bucky se rappelle qu'il n'a pas de physique.
Parce que Captain America, le physique, il l'a. Hein.
Du coup, il lâche. Fin de tournage pour lui.
Oui.
Et on est d'accord, on est d'accord qu'il tombe dans un ruisseau.
Il y a combien de mètres
glacé?
Non, mais c'est pas un ruisseau.
Il tombe d'une falaise.
Il tombe d'une falaise. Au moins... aller à 40 mètres dans un ruisseau qui doit être d'une épaisseur, qui doit faire, allez, d'une largeur 2 mètres, clairement il est mort.
Bah, il me semble voilà. qu'il va perdre un bras quand même dans l'histoire.
Et moi, la seule chose
c'est
que
pas
je
cher payé. Hein.
Moi, la seule chose que je vous ai dit, c'est que le ruisseau en bas, en profondeur, maximum, il y a 1m60.
C'est vrai que j'aurais bien aimé voir l'histoire de Bucky au moment où il tombe du train.
Toujours est-il, c'est que Captain America réussit à récupérer le bras droit de Schmidt, à savoir Zola.
Et c'est à ce moment-là que le colonel décide d'aller manger son steak devant Zola, en mode « Ah ouais, tu ne manges pas de viande ? Eh ben, je vais manger du coup mon steak devant toi. »
Le gars voit un steak, il se prend un coup de pression et il balance toutes les infos.
C'est clair.
Ah mais non, c'est bon.
Arrêtez, le tofu, j'en ai marre. Donnez-moi un steak, je vous donne toutes les infos.
Ça, c'est intéressant. Après, sur le côté, c'est tu te dis bah, « Zola se fait attraper. Bah, Zola de suicider en fait, et c'est ça du coup qui t'est expliqué, du coup par le colonel, en mode bah vous êtes fait attraper, vous êtes pas suicidé, donc en fait vous tenez à la vie, donc entre guillemets vous êtes une salope, donc je vais juste mettre un plan bidon du genre j'ai fait envoyer un vieux télégramme pour dire que vous étiez parti là-haut, donc Red Skull va vouloir vous niquer votre mère, bah ah ouais d'accord, donc vous me balancez tous les secrets, c'est juste ça en fait, c'est faussement subtil en fait.
Ouais, ça fonctionne.
Mais ça fonctionne.
En parlant de Red Skull, à savoir l'agent Schmidt, pour le coup, on le retrouve en train de faire un speech à tous ses soldats militaires allemands bien décidés à conquérir le monde. On apprend aussi que le bras droit, finalement, donc Zola, a balancé Schmidt, donnant sa position aux Américains, qui va permettre au Captain America et sa team, hein, bien évidemment, de s'y rendre. Du coup, festival d'explosions, de boucliers, de coups de tatane, pour finalement encercler le Captain qui sera amené devant Schmidt.
C'est vrai que cette scène-là est un peu ridicule. Il fait une infiltration de la base secrète. Captain America décide d'y aller tout seul. Là où tout le monde lui dit c'est une mission suicidaire, c'est pas possible, etc. Là, tout le monde lui dit vas-y, mission suicidaire, j'y vais, j'infiltre. Il se fait attraper, il est amené devant Red Skull, et au moment où il est devant Red Skull et que Red Skull est à deux doigts de le buter avec un flingue, la tyrolienne magique de tous ses potes qui arrivent par la fameuse baie vitrée, parce que tu comprends qu'il est dans les Alpes, et tout le monde du coup arrête de le braquer. Et là, c'est l'infiltration de la base, selon deux plans. T'as d'un côté ses potes bah, qui défoncent du côté centre de la base secrète où il y a Red Skull, et de l'autre côté, par là où il est rentré avec sa moto.
Il a du mal avec le mot Skull.
Mais bref, la tyrolienne a beaucoup d'importance dans le film.
Donc du coup, festival d'explosions, de boucliers, de coups de tatane, pour finalement encercler le Captain America qui sera amené devant Schmidt. Là, le reste de l'armée américaine se pointe également, permettant au Captain America de pourchasser Schmidt, pardon, qui s'enfuit. Alors il s'enfuit, mais pas n'importe comment, il s'enfuit à bord du gros avion-vaisseau, il galère à le rattraper à pied, mais fort heureusement, sorti de nulle part, il y a l'agent Carter qui se pointe avec le soldat un petit peu mécontent depuis le début. Et pas
le
dans
colonel,
le
colonel,
c'est ça. Mécontent.
Le oui, colonel. Bah, le colonel
qui a récupéré la Batmobile.
Colonel aigri.
Parce qu'il faut réutiliser la Batmobile. Et là, oui. Tu te rends compte que la Batmobile a donc un réacteur derrière pour ouais. aller poursuivre. Parce que ce qui était marrant, c'était que.
Ouais, non, c'est pas un réacteur, c'est du NOS.
C'est du NOS. C'est pas vrai faux. Que.
C'est Vin Diesel avant l'heure.
C'est un hommage à. Comment moi, Fast and Furious 6.
Moi, j'avais bien aimé juste la scène un peu où Captain America se dit bah, de toute façon, j'ai poursuivi les voitures. Pourquoi pas un avion, en fait. Et là, en fait, il se rend compte qu'il n'y arrive pas à pied. Mais c'était marrant, du coup, pour la blague fil rouge. Et derrière, il y a la Batmobile qui arrive, qui l'amène pile poil au bon moment pour qu'il arrive à rentrer sur le train d'atterrissage. Et là, il décolle.
Il décolle, il arrive dans l'espèce de vaisseau de ouf, et qu'est-ce qui se passe ?
Et ben là, il se rend compte qu'il est entouré d'avions-bombes qui, de façon très subtile, ont tous un nom des cibles, en fait, en gros. Donc tu as New York, Boston, je sais pas, il y a deux trucs.
Attention, celui-là va aller sur Philadelphie.
Bien sûr.
Clairement, tu comprends que l'Amérique est ciblée.
Oui.
Et là, il se dit de façon subtile, bah, je vais niquer les mecs qui vont vouloir niquer mon pays, en fait, parce qu'on est américain, tu vois. Bon,
on touche pas l'Amérique.
Ouais, c'est ça, voilà. Et il commence à en aligner 2-3, et puis on a un peu malin qui arrive à se barrer. Et là, il est quand même un peu stylé. Il décide de se dire, tu sais, quitte à mourir, vas-y, je pars avec lui. Il met une droite au gars qui s'éjecte, en fait. Et là, c'est un truc pas logique. Le gars s'éjecte, mais il arrive du coup à se mettre à sa place. Et à reconduire l'avion-bombe jusque l'avion normal, qui est donc commandé par Red Skull, qui se dit quand même bah, « je vais réussir à l'aligner apparemment avec des mitrailleuses automatiques ». Il arrive à passer et il arrive à re-rentrer dedans. Et c'est, c'est, la, c'est la partie du film, c'est la partie du film qui est un peu longue, moi je trouve.
Bah, c'est déjà le fait qu'il sache piloter alors que c'est censé être juste noté, un mec aussi. De Brooklyn.
C'est clair.
Enfin,
ouais.
Je vois pas à quel moment il a appris à piloter un avion.
C'est clair. Bon,
soit dit en, enfin.
Bah, soit dit en passant, je l'avais noté également, ça n'a pas de sens, mais bon après bref il avance. Il rentre dans l'avion.
Ouais, enfin, bref, il rentre dans le vaisseau en fait, on va dire. Et là il est là pour s'affronter avec Red Skull directement.
C'est ça. Le truc qui est marrant, c'est que le mec arrive à rentrer pile poil au moment où il avait lâché son bouclier.
Ouais.
Il le récupère, hasard. Le scénario est quand même bien fait. Et là du coup, combat final où il balance son bouclier pile poil au bon endroit où il y avait le Tesseract.
Combat final dans le cockpit le plus spacieux de l'histoire.
Ah oui,
pratique pour un duplex,
pratique pour un combat final.
Bah oui, ouais, parce qu'un combat final dans un vrai cockpit d'avion, ça aurait eu moins.
Ah ben, c'est serré quoi.
Là, t'es quand même dans un avion qui doit faire en hauteur.
C'est un beau truc, 200 mètres carrés, 12 mètres sous plafond. Enfin,
et là, ce qui se passe, c'est que Captain America, il commence à se friter avec Red Skull. Et donc, il s'avère que Red Skull, il a quand même des bons punchs. Hein. C'est un bon cogneur.
Bah, les deux sont au même niveau, techniquement. Oui, c'est des super soldats, en fait.
Red Skull, il commence à prendre le cube dans la main.
C'est ça, parce que juste avant, Captain America avait balancé son bouclier pile poil au bon endroit.
Et là, on comprend pas pourquoi. Il y a une espèce de téléportation. Avec
non, c'est pas ça. C'est que juste, en fait, il se prend pour un dieu. Et il se dit, je vais contrôler l'énergie du Tesseract. Et il peut pas contrôler l'énergie du Tesseract et il
le
se
cube
fait
de boîte de nuit. On est
et il se fait cramer par le Tesseract.
Je me demande s'il se fait pas téléporter au même endroit où est Loki. Tu vois à la fin de
Thor 2.
À la fin de Thor.
De Thor
tout simplement. Et là, alors parce que oui, ils sont affrontés et c'est vrai qu'ils ont fait un trou dans le pare-brise.
Ouais.
Et là, retour du fusil.
Et vu qu'en 1943, exactement, il y a pas de carglace. Et donc là, Steve se dit, bah merde, bah du coup, je vais devoir crasher l'avion.
Ouais.
Et je
du coup, je vais devoir mourir de façon héroïque, de façon inutile.
Oui.
Et là,
peu, ouais.
C'est beau parce qu'en fait, il s'avère que à la base, Steve Rogers, aka Captain America, il avait promis une dernière danse comme Kyo.
Ouais.
À l'agent,
la vraie ref,
à l'agent Carter. Et il s'avère qu'il décide d'appeler l'agent Carter pour lui expliquer et ça lui donne ça.
Peggy.
Ça va pas le faire.
Je
suis en bad.
Je crois que c'est chaud.
Faudra reporter notre soirée dansante.
Ouais.
C'est-à-dire.
Je me suis branlé.
Ah là aussi.
Très bien.
Ok, ça va. J'étais pas prête.
À samedi en 8, alors, au Star Club.
C'est mignon, en vrai.
Je suis juste allé chez le coiffeur.
À 8h tapante. Surtout, ne soyez pas en retard.
Bien sûr.
Compris.
J'espère.
Oui, mais je ne sais toujours pas danser.
Ouais.
En rajoute pas.
Soyez là à l'heure.
Ouais.
Je vous apprendrai.
Je serai jamais là.
On pourra peut-être leur demander un slow.
Ouais, bien sûr. Ouais,
n'en rajoute pas.
Je voudrais pas vous marcher sur le...
Ouais.
Vous passez sur le tunnel ?
Steve !
Allô ?
Steve !
Si c'est une blague, c'est pas drôle. Hein.
Seriez pas en train de mourir ?
Steve !
Steve veut ! Veut ! On est d'accord que cette scène n'a pas beaucoup de sens. Parce que le gars a une carte.
Parce que t'as pas de cœur.
Non, c'est juste que le gars a une carte. Il lui dit, je vais au milieu de nulle part. Le nulle part lui est cartographié. Il sait qu'il est au Groenland.
Ah mec, c'est pas ça qui a pas de sens. Hein. C'est que l'avion, il vole. Il y a plus de bombes dedans. Je vois vraiment pas pourquoi ils veulent cracher en fait.
Ouais. Bah parce qu'il est censé se diriger normalement sur la ville.
Toutes les bombes, toutes les soi-disant bombes qui sont tombées sur les villes américaines, elles sont.
Moi, la seule chose.
Mais il veut pas que le vaisseau se dirige sur la ville.
Dans ce cas, tu utilises. L'avion vole, tu le fais cracher et puis tu sautes.
Moi, la seule chose que je retiens, c'est que d'accord, il y a des
si
bombes.
C'était si facile.
Mec, c'est Captain America, bordel. Il va nous montrer dans les films suivants qu'il est capable de sauter
c'est
sans
clair.
Parachute d'un avion.
Non, là, c'est vrai. Moi, je pense que la seule chose, c'est qu'il se dit qu'il y a des bombes. Au pire, je le fais cracher. Mais c'est vrai que je peux sauter avant. Il le fait pas, c'est vrai que ça a pas de sens. Mais dans tous les cas, il peut dire je vais me cracher sur le Groenland, venez me chercher.
C'est, là, en tout c'est cas. Une putain de drama queen.
C'est ça. Juste. C'est,
non, mais c'est Captain Dramerica en fait.
Non, mais il a, en même temps, le mec a été formé et il a fait du ballet, du théâtre, et il sait que c'est le moment de mourir pour revenir un peu plus tard.
Ah oui, d'accord, c'est la fin du troisième acte.
C'est clair, c'est ça.
C'est le coup dur, en effet. Carter est en larmes, le vaisseau est en ruine, pire. Il s'enfonce dans la glace. Mais à côté de ça, les Américains, eux, par contre, sont en joie. Parce que bah, tout ce qui est Hydra, etc., tout ça, c'est fini. Parce que Captain America, pardon, a réussi allez défoncer.
C'est même plus qu'Hydra, je pense que la guerre est terminée. Ouais,
je pense que, le fameux mec en hache avec la petite moustache s'est suicidé dans son bunker, je pense que c'est fini. En fait.
De son côté, Howard Stark récupère le fameux cube qui s'était détaché en fait et qui s'était crashé dans l'océan. Le chef militaire donne...
Parce qu'ils arrivent à retrouver un cube au milieu de nulle part, mais retrouver un avion...
Et parce qu'il a une signature énergétique.
Ouais, bien sûr, nique ta mère.
Bah non, mais c'est ça l'explication. Ça comme ils ont récupéré un échantillon de la puissance du cube, ils sont capables, tu vois, de...
Ah, peut-être. Ah, vu sous ce plan de là, c'est logique.
Et en tout cas, toujours est-il, c'est que voilà, ils récupèrent, Stark récupère le cube, mais par contre, personne ne retrouve les vestiges du vaisseau, là où Captain America est mort dedans.
Sachant qu'on est d'accord qu'ils arrivent à retrouver un cube au milieu de l'Atlantique, ils ont juste à calculer en fait la trajectoire et se dire
oui,
bah, il est peut-être
loin,
par là-haut
c'est clair.
Et faire des recherches.
Et puis du coup Carter qui est inconsolable reçoit de nouveau le dossier, en fait le militaire un petit peu aigri lui donne le dossier de Steve Rogers, et quand Carter commence à regarder le dossier, elle retombe sur la photo de Steve Rogers encore un petit peu chétif, et là écran noir.
Ouais.
L'image revient et on voit les jolis yeux bleus qui s'ouvrent, à savoir ceux de Captain. Il se réveille dans une chambre d'hôpital et on entend notamment une transmission d'un match à la radio. Jusque-là, rien d'anormal. Une femme commence à rentrer et là, tu sens que le Captain, il est un petit peu hostile. Il veut savoir où il est et pourquoi il a des doutes.
Bah, le Captain, il est très fort quand même. Parce que le Captain, il arrive à se rappeler d'un match en particulier, et c'est le match en particulier qui lui dit vas-y c'est pas logique.
Je suis pas sûr, genre, on est censé être en 2024, t'es Captain Sefran, ok,
ouais c'est clair,
tu es congelé et tu te réveilles 70 ans plus tard en 2094. Ils veulent te faire croire que t'es en 2024.
Après,
et ils te diffusent à la radio un match où ça fait demi-volée pavard comme ça. Est-ce que t'y crois ou pas?
Demi-volée pavard, sachant que
on est d'accord que
non,
t'y crois pas.
Non mais là après c'est un truc de dingue.
Plus demi-volée que demi-volée.
Demi-volée, ouais, c'est vrai. Mais non, là je pense que c'est un peu gros. Je pense que les mecs, s'ils étaient un peu intelligents quand même, ils sauraient pas passer un truc de 1940.
Bah en fait, c'est là où je me dis
que si c'est 70 ans plus tard, ils en savent rien ce qu'il y a eu en 41 ou en 43.
Non mais le mec savait. Du coup, quand il a disparu, qu'il était en 43.
Mais non, mais Thomas, on parle d'un truc qui a lieu 70 ans dans le passé.
Scénaristiquement, c'est intéressant. Je pense, mais je pense que c'est un peu gros quand même. Et je pense que si t'es entouré de génies du FBI, etc., le gars se dit, vas-y, on va diffuser ce match qui est 2 ans avant. Je pense que du coup, le mec a perdu son taf quand même.
Toujours est-il que là, le Captain America, il est en train de tiquer en disant, attendez, je suis en train de me réveiller. Vous êtes en train de me diffuser un match auquel j'y étais. Moi, ça me paraît chelou. Et là, t'as le meuf qui dit, je vois pas pourquoi.
Ouais, c'est clair.
Et là, il commence à péter un plomb. Il y a des gardes qui arrivent, des gardes militaires qui commencent
c'est
à arriver.
Ça, c'est... Ouais, c'est ça, ouais, c'est
il les pète. Et là, on se rend compte que finalement, le mec est dans un décor.
Bah, il est dans un studio de tournage.
Ouais, c'est
ça.
AB Productions, Dorothée, les Musclés.
Il est chez Disney, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il est en train de tourner un épisode de The Mandalorian. Bah, je suis pas prêt, en fait.
Et là, du coup, il décide de s'arracher. Et quand il sort, on se rend compte qu'il est à l'époque actuelle.
Ouais.
Par contre, on se rend compte qu'il est toujours aussi beau gosse. Hein,
oui, non, mais le physique, il a pas perdu.
Ah non.
Non, non. Clairement, la cryogénisation, tu perds pas tes.
C'est pas la cryogénisation. On est d'accord qu'il est juste tombé dans une crevasse. Au milieu du Groenland, qui a créé une cryogénisation, ce qui n'a aucun sens.
Mais il fait froid, donc c'est cryogénisation. tu t'associes des éléments, tu vois.
Enfin bref,
le mec, super soldat, super cryogénisation,
super corps.
Le scénario, ça joue bien. Il se retrouve, il se fait poursuivre, il se retrouve au niveau de Times Square.
Ouais.
Et là, il y a Nick Fury qui se dit, vous savez quoi, c'était peut-être plus simple qu'au moment où il se réveille, je sois juste là à lui dire, mec, tu te réveilles, et on est en 2011. T'étais dans le coma. Ça aurait été plus simple en fait, mais non, il fallait qu'on mette en place un plan pour te faire croire que je sais pas quoi, nique ta mère.
Je comprends un peu quand même, tu vois, c'est pas... Tu dis bon...
Ouais, l'un dans l'autre...
Il y a un mec qui va se réveiller d'un long combat, si dès le début tu dis, écoute en fait, on est en 2011...
Je sais pas combien de temps il comptait comment conserver l'illusion, parce qu'au final tu te rends compte que son espèce de décor c'est juste des fonds avec des photos,
tu sais,
en fait.
Il se serait pointé au fur et à mesure, oh regardez Captain, on vient de découvrir une Mega Drive, alors regardez jouer, 2 heures après, oh regardez Captain, on vient de découvrir une Dreamcast, alors essayez de jouer. 3 heures après, oh regardez une PS3, regardez.
C'est pas ça, c'est que comment il lui annonce, vous avez dormi 70 ans. C'est d'une violence, moi je trouve.
C'est vrai
même,
que j'étais un peu fatigué quand même.
Tu veux dire comment ?
Oui, parce que là il a pas d'autre possibilité, mais pour moi je trouve que c'était moins violent du coup que le plan, on va vous manipuler pour vous faire croire que tout est bien, plutôt que vous vous réveillez, désolé mec, on est en 2011.
Il est vrai que ça aurait été plus logique, plus pertinent de dire, écoutez voilà, vous êtes réveillé, super, on est en 2011.
C'est clair.
En tout cas, toujours est-il, c'est que voilà, il se réveille et il se rend compte que, en plus.
Ouais, il a raté son rendez-vous surtout.
Il a raté son rendez-vous, ouais.
De 70 ans, j'avoue que.
Ouais.
Je suis un peu à la bourre.
70 ans, moins une semaine, mais.
Ouais. Tout ça pour un petit slow. Et un slow à l'époque.
Il est surtout en 2011, et là, c'est plus la même limonade. et le film se stoppe.
Oui, parce qu'un noir est président. Donc pour un mec qui vient de 1943.
Ah oui, donc Hydra n'a pas gagné, on est d'accord alors. Hein.
Je comprends que le choc soit quand même violent.
Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film, et on va avoir une scène post-générique. Et c'est quoi?
Bah, c'est juste que Captain America se décide de se dire « Vas-y, je vais taper dans un sac pour évacuer toute ma frustration de perdre 70 ans. » Il tape dans un sac, en fait, il l'éclate. Et juste après, il y a Fury qui arrive et qui lui dit « Vous êtes prêts à faire des choses un peu intéressantes ?» Et juste après, bim, ça coupe. Et là, c'est la bande
annonce. Remontez votre pantalon, Chris, c'est pas ce que je vous demande.
Et là, c'est la bande annonce d'Avengers. J'avais oublié que c'était la bande annonce d'Avengers, mais putain, c'était stylé à l'époque de se taper la bande annonce d'Avengers dans la gueule.
À l'époque, t'es au cinéma,
t'es
devant Captain America. À la fin, scène post-générique, c'est Avengers. Mais mec, t'es un fou.
Je pense que c'était prometteur.
Franchement, c'est ouf. Marvel jusque-là, et bah, c'est tout ce que n'arrive pas à faire d'ici. C'est stylé.
Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film. Alors, maintenant, on va passer aux catégories.
Pour commencer, meilleure scène, bien sûr. Moi, j'avoue que la scène où il est meneur de revue avec
pareil.
Les meufs, toute la partie musicale m'a bien fait marrer.
Carrément, pareil.
En fait, il n'y a pas de scène qui sorte du lot, je trouve, dans le film, même s'il est cohérent.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que moi, je me rappelle la première fois que je l'ai vu en fait, au cinéma, et la première fois que j'ai vu, j'ai fait « putain, c'est intelligent ».
Ok, qu'est-ce qui a le mieux vieilli?
Les effets spéciaux concernant Chris Evans quand il a un corps chétif. Parce que ça a très très bien vieilli.
Les nazis au cinéma, j'avoue que... C'est un petit péché mignon. En tant que castus scénaristique, le nazi, tu peux lui faire n'importe quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai toujours dit. Le nazi, c'est le méchant parfait.
C'est comme le Vatican, tu vois. On dit le Vatican a une base secrète en Amazonie. Tu dis ok, vas-y, j'accepte. Bon, qu'est-ce qui a le moins bien vieilli?
L'explosion du gros tank, là, c'est
non, mais toutes
pas beau,
les explosions. Ouais. Toutes les explosions, elles sont mal faites, elles ont mal vieilli, je suis désolé. Mais après, elles sont dans un style un peu kitsch et elles sont utilisées aussi dans un style en mode, tu sais, on avance vite fait.
Ouais.
Donc, je trouve qu'les explosions ont l'air d'être faites en effets spéciaux, mais pas ordinateur.
Ouais.
Tu vois, pas en VFX. Donc, je trouve que ça vieillit. Oui, mais ça vieillit plutôt bien au final. Est-ce que c'est l'apogée de quelqu'un?
Ah bah Chris Evans.
Carrément, oui.
Ah bah Chris Evans, gros, le mec, il était lancé au lance-pierre. Certes, on l'avait vu dans les 4 Fantastiques, mais alors Captain America, ça l'a propulsé.
Le réalisateur.
Il a fait quoi d'autre?
Avant, il a fait Chéri, j'ai rétréci les gosses. Et Jumanji.
Sérieux?
Et Jurassic Park 3.
Il a fait Jumanji, mais le premier?
Ah bah oui.
Ah putain, ouf.
Quoi. Ouais, c'est ouf. Ah bah ouais, clairement, son apogée.
Son apogée, c'est
Jumanji, réalisateur et Chris Evans, alors.
Ouais. Ok. La morale du film, c'est quand même plus facile avec des pecs.
Okay. Ne soyez pas nazi.
Ok, alors le recasting. Et alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler le recasting des épisodes précédents?
C'est vrai que c'est important.
Un peu, parce qu'on ne donne pas deux fois le même acteur non plus.
Ok, ouais. Ça marche. On avait dit que Iron Man, c'était José Garcia. D'accord. Que Thor, c'était Ragnar le Breton.
Ça, on est d'accord. Loki.
C'était Raphaël Quenard. Black Widow, c'est... comment elle s'appelle?
Ah oui, Léa Seydoux.
Léa Seydoux, ouais, voilà.
Léa Seydoux,
c'est
ça. Je m'en souviens.
Et on a qui à la place pour Nick Fury?
Ah bah c'est Jean Reno.
Alors, pour Captain America...
Captain Sofran.
Captain Sofran, qu'on appellera du coup Captain Sofran, ouais, tout à fait. C'est pas ouf, je suis désolé, mais c'est ce qui s'approche le plus. C'est Philippe Lachaud.
Mort, pas du tout.
Et ça me fait mal au cœur. Et ça me fait vraiment très mal au cœur.
Pas du tout.
Un petit blondinet, un peu taillé.
Après, il est pas du tout blondinet, Captain America en plus. Donc non.
Quoi?
Il est brun, Captain America n'est pas blond.
Il est châtain.
Il est brun, châtain. Ouais. Châtain clair alors.
Non mais c'est bien, je discute avec deux coiffeuses. C'est vachement intéressant.
Et nous avec un connard. Alors.
Parce que nous d'avoir des yeux. Hein.
Ouais, c'est bien. Carrément pas. Non, moi je vous dis, c'est Pierre Niney avec des stéroïdes. Ça serait nettement plus intéressant en fait. Pierre Niney, s'il arrive à avoir le même physique que Chris Evans, ça passe. Je suis désolé, c'est la même chose.
Non. Alban Lenoir? Mais bon, il fait trop.
Trop petit.
Mais non, pas trop petit, mais il fait trop force spéciale.
Non, Alban, Alban Lenoir pour faire Bucky. Là, à la limite, je dis oui.
Ah putain, maintenant c'est François Civil du coup.
Ouais.
François Civil pour Bucky, ça
Alban
le fait largement.
Pour faire Bucky, c'est pas si mal. Hein.
Mais François Civil, faut peut-être se le garder sous la poche en fait. Il pourrait être utilisé un peu plus tard. Mais François Civil, sinon pour faire Bucky, c'est également un bon choix.
Ensuite, Red Skull.
Oh, Vincent Cassel.
Eh ben ouais, je trouve que c'est une putain d'idée. Ouais.
Vincent Cassel, c'est pas mal. Avec un acteur avec un petit peu de patine comme ça là.
L'agent Carter, Helena Noguera.
Ah, physiquement il y a un truc quand même.
Non, franchement je pense que elle passe. Hein.
Ok. Allez, vas-y.
Allez, on est bon. It's time. Alors, c'est le moment de lui donner son nombre de chocolats et on va commencer par Thomas.
Ce qui est fort, c'est d'avoir réussi a aussi bien adapté un personnage qui est compliqué, je trouve, à adapter, en fait, Captain America. Non, j'ai trouvé que ce que j'ai bien aimé, c'était le contexte historique, comment ça avait été installé.
Okay.
Les personnages, même si, bon, c'est un peu bidon, le coup du... il est retrouvé dans l'Antarctique et son corps resté congelé, parce que si cette technique...
Il faut bien une astuce de scénario pour le ramener.
C'est clair, c'est clair. Bon, si cette technique fonctionnait, je pense que beaucoup de riches auraient déjà commencé depuis longtemps à y aller, en fait. Je lui donne 3 chocolats sur 5.
Et ben, je vais rejoindre Thomas sur la note. Je vais mettre 3 sur 5 aussi. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance du film. Ouais, tu vois l'ambiance à propagande années 40 pendant la guerre et tout. Ils ont bien respecté, ouais, ça fonctionne bien. Après, ça dessert peut-être certaines scènes d'action qui sont du coup un peu mal. Mais non, il est intéressant. Fait partie, pour le coup, de mes préférés de la première phase.
Et puis en plus, dans Les Méchants, il y a des nazis.
Les nazis au cinéma, c'est toujours bon, quoi.
Une petite valeur sûre.
Mec, Indiana Jones doit tout aux nazis. Donc 3 sur 5, c'est bien.
3 sur 5, ok.
Ouais.
Bah écoutez, ouais, je vais être d'accord avec vous. Je vais mettre aussi un bon 3 sur 5, parce que ça fonctionne bien. Je me souviens que la première fois où je l'avais regardé, j'avais pas aimé. Et puis finalement, alors je sais pas si c'est le fait, parce qu'entre temps, tu t'habitues au personnage. Mais en vrai, je trouve que ça fonctionne. Les effets spéciaux ont très bien vieilli, pour le coup. Bon, moi, le méchant, il m'a pas envoyé en l'air. C'est vrai que le dernier tiers, il est pas forcément dingue, mais je trouve que, ouais, pour instaurer le personnage, c'est un très bon début. Et puis, Chris Evans, putain, ça fonctionne très bien.
C'était un excellent casting, hein, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Surtout Chris Evans, mais tout le casting,
tout le monde était top, quoi. Eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était le cas. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
Allez, c'est vraiment trop débile, votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où, on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Je veux rentrer chez moi.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool.
Et je suis totalement bipolaire. J'ai plusieurs personnalités. En fonction de la lune, j'aime les films ou pas. Donc du coup, je l'ai vu peut-être 4 fois, et je l'ai aimé, je pense, 3 fois sur 4, donc je l'aime bien, ce film. Du coup, je pense...
Calcul, quand même.
Ouais, mais je vais essayer de faire des
T'es bourré, non?
Ouais, je suis fatigué.
Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.